Wax Taylor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes DJ, producteur, compositeur, vous êtes l'un des Français les plus connus à l'étranger, et même si vous ne faites pas partie de ce qu'on appelait la French Touch, vous avez donné plus de 800 concerts dans plus de 50 pays, nommé deux fois aux Victoires de la Musique en 2008-2011, récompensé aux États-Unis, je peux pas tout citer. Votre cinquième album vient de sortir. Auparavant, les deuxième, troisième et quatrième ont tous les trois été disques d'or. Alors évidemment, Wax Taylor, c'est un pseudonyme. Vous appelez en vrai Jean-Christophe Le Saout.
C'est ça.
Alors, les gens à France Info m'ont dit, qui tu reçois aujourd'hui, qui tu reçois demain, question rituelle. Et alors, soit les gens ne vous connaissent pas, soit ils vous adorent. Comment, pour ceux qui ne connaissent pas, vous définiriez votre musique ?
Il y a beaucoup d'étiquettes qui sont accolées. On parle souvent de trip-hop, de choses comme ça. Mais moi, pour moi, c'est quelque chose qui est un peu connoté, un peu enfermé dans les années 90 et une certaine scène autour de Bristol, on va dire. Mm-hmm. Moi, il y a évidemment des références et des choses qui font écho. Après, j'utilise souvent le terme d'hip-hop orchestral parce que je suis quelqu'un qui vient de cette scène à la base, dans la scène du sampling. Et le côté orchestral, ça fait référence aussi à tout ce qui me nourrit. J'écoute aussi beaucoup de pop et de rock années 60-70. Donc, je pense que toutes ces influences croisées en fait font qu'il y a une façon d'orchestrer la musique, mais qui reste avec une épine dorsale très hip-hop.
J'aime beaucoup le récit de vos débuts que vous aviez fait au Point il y a 3 ou 4 ans. Vous avez dit, quand j'ai commencé au début des années 90, je faisais partie des fans de hip-hop jugés analphabètes. L'électro, c'était les drogués d'en face, et les groupes de rock, des emmerdeurs avec leurs batteries.
Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça peut paraître complètement fascisant quand on le dit en 2017, mais c'est parce qu'en fait, on était dans des scènes très alternatives, donc ça s'inscrivait pas du tout dans un circuit. Aujourd'hui, le hip-hop, il est partout et c'est assimilé, et donc il y a quelque chose de très 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 différent. À l'époque, il y avait besoin pour ces scènes d'exister. C'était pas forcément de la haine, c'était chercher sa place, et puis c'était une réalité de genre, quoi. Je pense qu'il y a une ouverture d'esprit, même sur les gamins de 20 ans aujourd'hui, ils sont plus du tout dans ces problématiques-là, ça me semble évident.
Alors, après une tournée assez énorme qui a démarré par Sofia, Bucarest, dans les pays de l'Est, qui a fait toute la France, je vais pas tout citer, Montréal, plus d'une quinzaine de dates aux États-Unis avec les grandes villes, vous revenez en Europe, assez rare pour être signalé, vous avez également fait une tournée avec un orchestre symphonique, une quarantaine de musiciens, 17 choristes. Juste une question, comment on fait avec 60 personnes sur scène, donc 60 bulletins de salaire, pour que le concert soit rentable?
Et il n'est pas rentable. On va être, non, c'est clair, on a fait une dizaine de dates, on a fait complet partout, on a eu toutes les aides qu'on pouvait avoir et on était déficitaire de 60 000 euros, je crois, de mémoire.
Et alors, vous avez même joué en 2014, c'est en octobre, avec l'Orchestre National de Colombie pour la réouverture du Théâtre National de Bogota. Ouais. C'est les cartels qui ont payé?
Non, mais là, c'est surréaliste. Hein. Je ne peux pas expliquer ce projet. Quand on m'a appelé, j'ai relu trois fois le mail. Non, mais c'est un moment unique. Le lieu est incroyable, le théâtre est magnifique. C'était ma première tournée en Colombie, c'était un peu too much, mais non, c'était génial.
Je reviens à vos concerts normaux, si j'ose dire, classiques, qui sont également des spectacles visuels. Mmh. Il fut un temps, vous aviez eu l'idée de donner aux spectateurs des brassards lumineux. Mmh. C'est devenu quoi ?
C'est un peu des expérimentations. L'idée, c'était de voir un peu le rendu, ce qu'on peut en faire. Je suis quelqu'un qui est très très bon client en fait de technologie, mais avec toujours le garde-fou de mettre l'idée avant la technologie creuse. Mmh. Donc pour le coup, faut être sincère, on a essayé, c'était pas probant quoi.
Parce que si tout le monde doit se déguiser comme chez Patrick Sébastien.
non, c'est ça. Il faut pas que ça devienne un peu gaguesque. L'idée, c'était de faire quelque chose qui soit en résonance avec ce qui se passait sur scène. Bon, après, ça marche ou ça marche pas, mais ça valait le coup d'être essayé.
Vous serez cet été au Festival des Vieilles Charrues, avec notamment Renaud, Manu Chao, Arcade Fire, et un gars qui fait un peu le même métier que vous, parce qu'il fait que des machines et du visuel, Jean-Michel Jarre.
Mmh. Un petit jeune.
Vous serez pas ensemble sur scène?
Non, c'est pas le même soir.
Parce que sinon, ça fait une battle monstrueuse.
non, c'est pas le même soir.
Et je me suis laissé dire que la vingtaine de dates américaines, ça n'avait pas suffi, et vous allez y retourner.
Oui, on a nécessité de recaler quelques dates. Il y a une date à Washington qui arrive, une à Boston, et notamment aussi une date à New York, parce qu'on a eu un petit souci de visa sur le début de tournée. Et du coup, on va rejouer à Summer Stage à Central Park pour la fête de la musique. Donc c'est un beau spot.
Wax Taylor avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Wax Taylor avec nous, DJ, producteur, compositeur, un des musiciens français les plus connus à l'étranger. Et vous êtes en tournée en ce moment, il y aura en plus tout l'été des festivals. Taylor ne s'écrit pas avec un Y, comme dans l'expression « My Taylor is rich », ce qui a quand même été le titre d'une demi-douzaine d'articles vous concernant. Pour ceux qui n'ont pas fait anglais première langue, pourquoi ce pseudo Wax Taylor? Qu'est-ce que ça veut dire?
Wax Taylor, ça veut dire tailleur de cire. Alors en France, quand on pense cire, on pense pas forcément vinyle, mais ça reste le matériau du vinyle. Moi, le point de départ de ma création musicale, c'est le sampling. Donc c'est l'idée d'aller extirper des notes de vieux vinyle et quelque part de refabriquer des instruments en extirpant ces notes et en refabriquant des instruments qui me sont propres.
Vous avez sillonné les États-Unis. Mais pas seulement New York ou Los Angeles, les villes riches, mais aussi l'Amérique profonde, les petits coins d'Alabama, du Mississippi, du Tennessee. Est-ce que vous avez rencontré le pays réel, les vrais gens, comme on dit parfois, ces gens qui ont voté Trump?
Ah ouais, bien sûr. Ce qui est assez particulier aux États-Unis, c'est ça, c'est qu'il y a cette double réalité. Il y a deux. On dit des fois qu'il y a deux Amériques, mais je me demande si on n'a même pas plus que ça. Il y a cette réalité de l'Amérique profonde qu'on peut appeler après les white trash, les rednecks, ce qu'on voudra. Mais on pourrait penser que parce qu'on est dans des réseaux de musique, on va pas être forcément confronté, mais on est assez rapidement confronté avec des discussions avec des gens qui peuvent travailler dans les mêmes équipes avec des idées très très différentes. Donc on a eu des discussions avec des gens qui étaient Trump, ouais.
Ah oui, et alors?
C'est assez troublant parce que au final, ça n'excuse en rien, mais il y a des mécanismes qu'on comprend et qu'on peut même calquer par rapport à ce qui se passe en France. C'est la réalité des classes ouvrières en France, quoi, tout simplement, qui à un moment donné ont été délaissées par des politiques qui cherchent une réponse. Et même si c'est une réponse de désespoir, au final, quand on n'a plus rien à perdre, pourquoi pas?
L'album compte plusieurs invités prestigieux, comme par exemple Tricky. Ces gens-là, ils sont faciles à convaincre, difficiles, ou est-ce que ce sont vos vieux potes?
Ça dépend. Pour le coup, Tricky, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, donc ça n'a pas été le plus compliqué. C'était plus une réponse à un moment donné. Je suis pas quelqu'un qui cherche à provoquer des collaborations. Je réagis plus par rapport à la musique. Donc là, j'ai eu une évidence, je lui en ai parlé. Ça s'est fait assez simplement. Et puis après, il y a des gens que je connais pas forcément, mais que je vais contacter en leur expliquant. Voilà, pour moi, le parallèle le plus simple, c'est un casting, c'est un scénario et j'ai un rôle à proposer.
Vous voyez comme un metteur en scène de son?
Ouais, un metteur en son, ouais.
Et vous êtes vraiment pas musicien?
Je suis complètement musicien, pas du tout instrumentiste et pas du tout de formation académique, non.
Vous savez pas lire la musique ou vous savez?
Non, du tout.
C'est un choix?
C'est un choix délibéré, ouais. Vraiment, ça a été en tout cas un moment donné où je me suis rendu compte que j'étais analphabète de la musique. J'ai préféré assumer cette posture-là parce que je trouvais qu'il y avait une approche beaucoup plus brute par rapport à la musique et moins cadrée.
L'album est certifié 100% indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Je suis
indépendant de quoi?
Indépendant de l'industrie musicale. Quand on parle de l'industrie musicale, on a souvent tendance à la caricaturer un petit peu, mais il faut juste accepter le terme. Dans l'industrie musicale, il y a industrie. Donc à partir du moment où on accepte ce carcan-là, moi j'ai besoin d'être en dehors de ça. Je suis un artisan.
Comment vous faites pour avoir vos CD chez Carrefour et Leclerc, comme vous faites, et à la Fnac?
Je fais comme font des petits producteurs indépendants quand ils ont du miel bio et qu'ils ont besoin d'essayer de trouver des réseaux de distribution. Donc on existe différemment, mais je suis loin d'être le seul à le faire.
Vous avez une phrase qui m'a fait sourire. Vous avez dit « On aurait besoin d'une AOC, appellation d'origine contrôlée, sur la musique comme pour le vin ou le fromage. »
Ouais,
comment ça? Ouais, mais ça veut dire quoi?
Je le pense parce que aujourd'hui.
Non, mais ça veut dire quoi, d'AOC?
Une AOC, ça voudrait dire quelque chose qui donne un petit peu une lecture sur la traçabilité de la façon dont la musique a été faite et par qui. Et
ah bon?
Ouais, vraiment. Je pense qu'il y a
la... Vous n'allez pas raconter vos secrets?
Non, non.
Vous n'allez pas dire ce sample-là, c'est la batterie qui est piquée sur George Benson?
Non. C'est pour être clair, c'est plus sur la façon de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont avoir un discours politique dans leur musique. Il y a des gens qui ont une démarche politique dans leur façon de défendre leur musique. Et moi, je m'inscris beaucoup plus là-dedans. Donc, c'est là où il faut bien spécifier l'environnement de la musique que la musique elle-même. On a plein d'exemples d'excellentissimes disques qui sortent de major. Mais voilà, il y a ce contexte où à un moment donné, on voit des artistes qui sont dans des postures un petit peu de rébellion, mais qui sont niche universelle. Donc j'ai un peu du mal, moi, avec ça.
Wax Taylor avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Le DJ et musicien Wax Taylor avec nous, et vous êtes en tournée en ce moment et aux États-Unis.
Le 20 juin à Washington, le 21 juin à Central Park à New York et le 22 à Boston.
Et ça s'arrête peut-être pas là. Est-il vrai que vous êtes dans la playlist de l'ISS, la station spatiale?
Oui, j'ai appris ça pendant qu'on était en tournée. Ah ouais.
C'est Thomas Pesquet qui fait le DJ.
Exactement. Ah ouais, il manque pas d'humour parce qu'il a terminé par Que Sera. Et c'est vrai, quand on part dans l'espace, on peut se poser la question.
Dites pour les gens qui parlent pas espagnol.
Ah bah,
ça veut dire quoi, Que Sera?
Je suis pas super fort pour traduire ça. Je sais pas s'il y a une traduction à proprement parler. C'est qui vivra verra. On peut dire ça comme ça, je pense.
Exactement. Est-il vrai qu'à 20 ans, vous saviez que votre destin c'était la musique? Et qu'à 22 ans, vous étiez sûr que c'était pas du tout ça?
Non, j'étais sûr que, à 20 ans, j'étais sûr que j'étais destiné à une grande carrière internationale et que j'avais un talent monumental. Et à 22 ans, j'ai commencé à me reposer la question, à repositionner les choses de façon plus rationnelle, quoi. Donc après, la musique restait complètement partie intégrante de ma vie, mais de là en vivre, c'était une autre question.
Vous réécoutez ce que vous avez fait à 20 ans?
Oui, bien sûr.
Et c'est comment?
Il y a des choses bien, il y a des choses.
Est-ce qu'il y a des choses sauvables? J'ai reçu plein de fois des écrivains qui disaient
c'est atroce.
Ce que j'écrivais à 15 ans, mais c'était.
À 15 ans, par contre, je faisais de la musique et c'est catastrophique.
Ah oui?
Ouais, vraiment. C'est là, vraiment, on pourrait me faire chanter, je pense.
Est-il vrai que quand vous donnez un concert à New York, les gens vous demandent des nouvelles de la Bay Area?
Alors en fait, il y a une confusion constante. Souvent, les New-Yorkais pensent que je suis londonien. Et c'est quand je suis dans la Bay Area, c'est-à-dire du côté de San Francisco, eux pensent que je suis New-Yorkais. Donc il y a une confusion constante, en tout cas sur d'où je viens et la nationalité.
Ils sont déçus quand vous leur dites que vous êtes français?
Non, et pour être honnête, ça devient un peu plus clair. C'est-à-dire que je commence à ressentir de plus en plus le côté, même des fois on arrive dans des salles américaines et l'après-midi ils nous mettent Edith Piaf, des trucs comme ça.
Est-il vrai que vous habitez toujours là où vous avez grandi?
C'est vrai, c'est vrai.
C'est à Vernon dans l'Eure, la même ville,
ouais.
La même maison?
Voilà, pas la même maison, mais en tout cas toujours dans la même ville, ouais.
Est-il vrai que vous êtes votre propre manager?
C'est vrai aussi, ouais, ouais.
C'est-à-dire comment on fait? Si on veut vous avoir en concert, on vous appelle vous-même?
Ah bah de toute façon, ça tombera chez moi, oui, bien sûr.
Non mais normalement, on n'embête jamais l'artiste, on embête le manager qui est là pour ça.
Mais moi, je suis schizophrénique.
Non mais ça veut dire que tout le monde a votre portable?
Beaucoup de gens, oui.
Est-il vrai que vous expédiez vous-même les paquets d'albums vinyles aux disquaires indépendants?
Ça arrive, pas constamment, parce que j'ai un distributeur, mais il y a des magasins avec lesquels on travaille en direct, ouais, bien sûr.
Ah non, mais je pensais que c'était vous qui alliez à la poste de Vernon
déposer
les paquets.
Non, non, non.
Bonjour, Madame Mouchard.
Non, mais c'est
bonjour, vous allez bien.
Ça fait quand même partie d'une réalité d'indépendant, ouais, de gérer un petit peu tous ces stocks de disques, etc.
Beaucoup plus glamour. Est-il vrai qu'au Japon, vous avez en permanence devant vous une douzaine de jeunes filles hystériques?
Ouais, mais je pense que c'est pas. Je pense que à partir du moment où on est européen et qu'on va jouer au Japon, je faut bien relativiser mon capital séduction. Je crois que c'est vraiment dû plus au côté européen qu'à moi à proprement parler.
Parce que mon info date de 2010, mais sauf qu'on est en 2017, est-ce que la douzaine de jeunes filles est devenue une cinquantaine, voire une centaine?
Je vais y retourner à l'automne, donc je vous répondrai à l'automne.
Est-il vrai que vous auriez horreur d'être David Guetta?
Je crois que j'aimerais pas, ouais.
Pour quelle raison?
C'est pas pour. Je suis pas sûr que ce soit si enviable en fait dans la posture, dans tout ce que ça implique, et puis c'est parce que c'est pas mon univers, quoi.
Qu'est-ce qui vous déplaît? Non pas dans le fait d'être David Guetta lui-même, mais dans le fait d'être une méga star comme ça, qui roule en limousine et qui. C'est pas agréable ça?
Non, je pense pas, parce qu'il y a un moment donné où on est. C'est beaucoup plus enviable d'être Daft Punk et de pouvoir aller faire ses courses sans être reconnu.
Vous les connaissez les Daft Punk?
Non, pas personnellement.
Vous savez la tête qu'ils ont?
Oui, bien sûr.
Est-il vrai que votre bus de tournée est dans un état cauchemardesque?
En fin de tournée, c'est toujours compliqué. C'est un huis clos avec 15 personnes pendant des semaines, donc il y a un moment donné où on est content de sortir. Ouais.
Ça sent le vestiaire?
Un peu.
Vous avez dit, le matin, il y a des cadavres de bouteilles partout, et il faut qu'on s'arrête pour nettoyer le bus, ça ressemble à un camping bordélique.
C'est un peu ça, ouais, c'est vrai.
Et vos personnes rangent?
Au bout d'un moment, si, mais il faut déterminer qui va le faire.
Et c'est pas vous?
Oh si, ça arrive, bien sûr. Mais non, mais c'est après, ça fait partie de la vie d'un tourbus. Je pense que n'importe qui a fait un peu tourner se reconnaîtra facilement.
Merci beaucoup, Wax Taylor, d'être venu nous voir.